ami en Christ. Par cet enseignement, nous saurons quel monde Jésus-Christ est venu sauver. Jésus-Christ est venu sauver le monde. C'est vrai que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sauver le monde. Mais de quel monde Jésus-Christ est venu sauver ? Beaucoup, même la majorité des croyants chrétiens, récitent cette phrase sans même savoir de quel monde Jésus-Christ est venu sauver. Par manque de la connaissance du monde sauvé par Jésus-Christ, le croyant chrétien ne pourra pas connaître ni Jésus l'homme, ni le Christ, la parole de Dieu qui est esprit, ni le rôle de chacun, c'est-à-dire de Jésus et de Christ. Et encore moins comment les deux fonctionnent pour sauver le monde dont parlent les Écritures saintes. Ce n'est pas le monde physique, c'est-à-dire les mers, les océans, les forêts, les villes avec tous ceux qui font ces villes, ces routes, ces maisons, etc. Jésus-Christ n'est pas venu sauver les animaux, les poissons, les oiseaux. Si c'était le cas, Jésus-Christ se serait présenté sous la forme de toutes ces choses. Mais il s'est présenté sous forme humaine, un homme. Il est le Fils de l'homme, donc il est venu sauver l'homme. Le monde dont parlent les Écritures, c'est dans l'homme que ce monde se trouve. Genèse 2, versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà ce qu'a été le monde que Dieu voulait qu'Adam cultive en lui et surtout qu'il le garde fermement. Alors, qu'a fait Adam ? Adam a désobéi et a cultivé un autre monde qui n'est pas le monde de Dieu. Cet autre monde n'a pas fait d'Adam un enfant de Dieu qui est de la race de Dieu. Genèse 3, versets 9 à 11. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : Où es-tu ? Il répondit : J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit : Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ? Toujours dans Genèse 3, les versets 17, 18 et 19. Et aussi le verset 24. Il dit à l'homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ce monde de la mort est donc l'héritage de tous les descendants d'Adam, qui sont d'ailleurs créé à son image, mais pas à l'image de Dieu saint. Genèse 5, verset 3. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Par ce monde de péché, le monde de la mort, l'homme est devenu étranger pour la vie de Dieu. C'est ce qui fait que l'homme, pour recevoir les bienfaits et les faveurs de Dieu, l'homme doit obligatoirement payer son propre rachat à des choses à Dieu. Lévitique 1, versets 1 à 3. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation. Il lui parla et dit : Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Exode 30, versets 11 à 15. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-sicle, selon le sicle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-sicle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, paiera le don prélevé pour l'Éternel. Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-sicle comme don prélevé pour l'Éternel, afin de racheter leur personne. » Ce que veut dire, dans l'ancienne alliance, alliance lévitique avec les enfants d'Israël, Dieu ne les a pas appelés mes enfants, mais mon peuple. Ils devaient payer pour recevoir les bienfaits et les faveurs de Dieu. Ils étaient étrangers dans la vie de Dieu. Ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Dans cette ancienne alliance, Dieu n'a jamais demandé à son peuple d'être ses imitateurs. Le monde de Dieu n'était pas en eux. Moïse et Aaron, se trouvant dans l'ancienne alliance, eux qui étaient les porteurs de ce sacerdoce ou prêtrise lévitique, n'ont pas détruit le monde hérité d'Adam qui était en eux et de leurs frères. C'est pour cela les offrandes et les dîmes continuaient à être exigées, imposées aux Israélites, pour recevoir les faveurs et les bienfaits de Dieu. Dieu est amour. Par l'amour de l'homme, Dieu va envoyer son propre Fils Jésus-Christ pour détruire le monde du péché et de la mort de l'homme, pour établir le monde de la vie qui fera des hommes les enfants de Dieu. Maintenant, voyons la mission de Jésus-Christ sur la terre. Jésus-Christ est venu pour détruire ce monde du péché et de la mort. Car nous savons que le salaire du péché, c'est la mort, nous dit Romains 6, 23. Et il a établi un monde de Dieu dans le cœur de l'homme. Ézéchiel 36, versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Jérémie 1, versets 9 et 10. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Jésus, le Fils de Dieu, Dieu son Père a mis dans sa bouche sa parole, une épée qui lui permettra de détruire, déraciné et consumé par le feu de l'Esprit puissant de Dieu, toutes ces plantes du péché et de la mort qu'Adam a plantées par sa désobéissance à la parole de Dieu, pour ensuite planter et semer le monde nouveau de Dieu dans le cœur de l'homme. Le monde qu'Adam a planté est celui du péché, c'est-à-dire la haine, le mensonge, l'injustice, en deux mots, le monde du mal. Le monde établi par Jésus-Christ, c'est le monde de l'amour, de la vérité, le monde de la paix, de la justice, le monde qui donne la vie de Dieu. C'est ce monde qui fait de l'homme enfant de Dieu. Ce monde de Dieu révèle la personnalité de Dieu visible dans le comportement, la conduite, l'attitude, ainsi que dans le langage de l'homme vis-à-vis de son prochain. Jean 14, versets 8 à 11. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment, dis-tu? Montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. 1 Jean 1, versets 1 à 5. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Pour que cette mission s'accomplisse visiblement, il faut la présence de trois, c'est-à-dire Christ, la parole de Dieu, le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, et Jésus, l'humain. Le corps qui doit faire habiter les deux premiers, car les deux premiers sont esprits, on ne les voit pas. Pour les faire voir, il leur faut un corps saint. Hébreux 10, versets 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. » Il dit ensuite, « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Colossiens 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Par Jésus, le corps humain, les hommes voient Dieu. Le corps Jésus, sous l'autorité et la conduite de Dieu par sa parole et son esprit, Jésus, son Fils, nous fait connaître la personnalité de son Père visiblement. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Hébreux 1, verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. L'homme ne peut plus dire qu'il n'a pas vu Dieu. Par conséquent, Dieu peut lui demander de l'imiter. Éphésiens 5, versets 1 et 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. 1 Jean 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Nous connaissons maintenant qui est Dieu à travers son Fils Jésus-Christ. Jean 17, versets 3, 4 et verset 6. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Poursuivons dans le même chapitre avec les versets 21, 22, 23 et 26. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Donc, ce ne sont pas des rites et les traditions qui nous font connaître Dieu. C'est par Jésus-Christ, sa vie, son comportement, son attitude, sa conduite et son langage qui nous montrent visiblement la personnalité de Dieu. Donc, nous pouvons l'imiter sans problème. Jean 15, verset 7 et verset 22. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Qu'avons-nous besoin aujourd'hui? Des rites, des traditions, des pièces de théâtre comme nous assistons aujourd'hui dans les différentes dénominations? Bien sûr que non. Jacques 1, versets 22, 25 et 27. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Jean 15, verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Aujourd'hui, les hommes ont établi des doctrines diverses, ce qui a occasionné la création de plusieurs dénominations chrétiennes. Cela nous rappelle ce proverbe qui dit « Tout chemin mène à Rome ». Mais rassurez-vous, frères et sœurs, car c'est une erreur. Voilà la réponse à ce proverbe. Une réponse donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux ». Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ceci dit, pour entrer dans une maison, la voie autorisée est la porte d'entrée. Celui qui rentre par la porte est accueilli et reçoit les honneurs dus à l'invité. Mais celui qui rentre par la fenêtre ou par le toit est considéré comme un voleur et on le traite comme un voleur. Jean 10, versets 1 à 5. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Ceux qui rentrent par la porte, ce sont ceux qui ont le même comportement, la même conduite et la même attitude et le même langage que celui de Jésus, le Fils de Dieu. Ce ne sont pas les rites et les traditions imposées et exigées par les chefs des églises qui disent « Mon église, mes fidèles » qui doivent faire des hommes enfants de Dieu. Le Seigneur a dit ceci. Matthieu 15, versets 6 à 9. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. » Être enfant de Dieu n'a rien à voir avec des rites et traditions, mais c'est de vivre la vie de Jésus, le corps du Christ, sous l'autorité du Christ et de l'Esprit de Dieu. C'est cela vie de prière. C'est cela prier sans cesse. C'est cela être joyeux et heureux. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 et 17. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Être enfant de Dieu, c'est Romains 6, 1 à 13. Que dirons-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Pourquoi autant de confusion entre les dénominations chrétiennes, alors que nous devons avoir qu'un seul chemin et une seule porte d'entrée? Éphésiens 4, versets 4 à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et dans les versets 11 à 16 du même chapitre, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Et toujours dans Éphésiens 4, prenons les versets de 20 à 32. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amis en Christ, par ces passages, nous devons méditer profondément et ne pas nous laisser emporter par toutes ces doctrines imposées par les hommes. Car nous ne devons pas prêcher les hommes mortels, mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu seul, assis à la droite du Père pour intercéder pour l'homme pécheur. Aucun autre humain n'a été établi pour intercéder pour son frère humain en dehors de Jésus-Christ, le ressuscité. Nous sommes tous des pécheurs. Seul Jésus-Christ est saint pour le faire. Aucun humain ne sert Dieu. Seul son Fils le Saint qui se tient devant son Père pour le servir. Acte 17, versets 24 et 25. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Par Jésus-Christ, nous sommes en construction d'un monde meilleur, le monde de Dieu dont nous sommes de la race de Dieu. Acte 17, versets 28 à 31. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amis en Christ, maintenant que nous connaissons le monde de Dieu et où ce monde se trouve, alors nous, ne nous laissons plus mettre en esclavage par les hommes. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Nous dit 1 Corinthiens 7, verset 23. Que le Seigneur vous garde.